Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Plus de 11h sur Radion, un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre. Comme chaque samedi, c'est votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et j'ai aujourd'hui le plaisir d'avoir alors une autrice. J'ai horreur du terme autrice.
Je ne dis pas autrice, je dis une auteure ou une écrivaine.
Alors qui êtes-vous ?
Alors, je suis les deux. Non, auteur...
Alors, c'est Maud Tabachnik. C'est Maud Tabachnik qui est auteur et pas autrice, donc.
Non, c'est parce que je trouve pas ça phonétiquement beau. Mais une auteure, oui, ça va.
Alors, Maud Tabachnik, nous nous sommes rencontrés lors de tables rondes. Je me rappelle à Saint-Honoré-les-Bains.
Ah,
vous
oui.
Souvenez-vous
oui.
Et l'année dernière... C'était au salon Livres en Vigne, au château du Clos de Vougeot. Et j'avais eu grand plaisir à évoquer avec vous « Jeu de dupes ». C'était déjà chez City Éditions.
Absolument.
Et alors, vous revenez cette année avec un nouveau roman, toujours chez City Éditions, qui a pour titre « Les faisceaux de la peur ». Alors, Maud Tabachnik, vous êtes l'auteur d'une trentaine de polars. On vous connaît beaucoup dans ce registre-là. Même un petit peu plus.
Mais je n'ai pas fait que des thrillers et des polars. J'ai fait aussi des livres historiques, des livres surtout géopolitiques. Mais même mes livres noirs, ce que j'appelle mes livres noirs, sont géopolitiques. Ils s'occupent de notre monde.
Je me rappelle, Maud Tabachnik, à Saint-Honoré-les-Bains, avoir fait une interview avec vous, c'était pour « Je pars demain pour une destination inconnue ». C'était cette histoire, en fait, de ces Juifs qui quittaient la Palestine pour venir...
qui quittaient l'Europe pour aller en Palestine.
Oui. Alors là, on reste dans l'histoire avec ce... Et ça m'a d'ailleurs beaucoup surpris. Je me dis, tiens, Maud Tabachnik
j'ai fait plusieurs livres d'histoire.
Les faisceaux de la peur, l'action commence en Italie.
C'est pour ça que c'est les faisceaux.
Les faisceaux.
Bien sûr, ce sont les faisceaux mussoliniens.
L'Italie de Mussolini, une famille, et notamment surtout une héroïne, une jeune Judith Livy. Mmh. Elle a 17 ans au début du roman. On la suit jusqu'à l'âge de 21 ans.
Oui. Hein. Mmh.
Et alors, Maud, magie de cette magnifique ville italienne qu'est Florence, ville des arts, de Dante Alighieri, d'ailleurs, c'est rappelé au début du roman. Et votre héroïne, Judith, vit avec, dans une famille juive, des parents juifs non pratiquants.
Non pratiquants.
Il y a le jeune frère qui a 15 ans, Michael. Alors cette Judith dans cette Italie fasciste qui commence à devenir menaçante pour les juifs italiens, elle veut devenir écrivain. Et alors vous y ajoutez aussi une psychologie particulière à cette jeune fille. Bon, elle est amoureuse d'une camarade de son âge.
Oui.
Ensuite... Elle assiste à une scène que je vais vous inviter à parler. Elle assiste à une scène d'une violence inouïe.
C'était la première fois qu'il ne se rendait pas compte. En Italie, les gens ne se rendaient pas compte du danger. Parce qu'en fin de compte, Mussolini, je ne veux absolument pas le lancer des fleurs, mais n'était pas au départ un violent, un brutal. C'était un... C'est plutôt un opportuniste, c'était un homme qui voulait le pouvoir et qui voulait s'acoquiner avec Hitler pour profiter d'Hitler et de ce qu'il allait faire, ce qu'il n'avait pas encore fait. Hein. Je parle aussi dans mon livre de la rencontre entre Hitler et Mussolini à Rome. Mais elle, c'est une petite jeune fille qui est une étudiante, une bonne étudiante, une bonne élève, qui... Un soir, en rentrant chez elle, où elle passe toujours par la même place, par les mêmes... assiste à l'assassinat d'un homme, parce qu'il y a les faisceaux mussoliniens, c'est-à-dire la milice mussolinienne qui arrive sur la place Et ce jeune homme en question, qu'elle ne connaît pas, s'échappe. Et les miliciens lui tirent dessus, bien sûr. Et tout le monde s'écarte et elle dit, mais on est en train de le désigner. Parce que les gens s'écartent, donc ils courent à travers la place jusqu'aux arcades qui sont un peu plus loin et il est abattu. Et les miliciens rejoignent le cadavre, le scoop pour voir s'il est mort et le jettent dans leur camion. Et ça la pétrifie. Elle a 17 ans, c'est une petite jeune fille étudiante, et c'est un vrai meurtre, un vrai assassinat, d'autant que le jeune homme, en la croisant, en passant devant elle, l'a regardée et elle a vu la terreur dans ses yeux. Et pour elle, c'est quelque chose de complètement... qu'elle n'imaginait pas. Imaginons une jeune fille d'ici, ou un jeune homme, qui sort du lycée et qui assiste à un assassinat, voyez, comme ça, de sang-froid. C'est terrible. C'est terrible pour tout le monde, mais c'est terrible pour les jeunes.
Et puis, ce qui scandalise Judith, c'est l'indifférence aussi de la foule qui assiste, comme elle, au même événement.
Voilà. Là, c'est la peur. Bien sûr, l'indifférence et la peur sont étroitement mêlées dans tous ces cas-là. Et justement, ce que j'ai voulu... ce dont j'ai voulu parler dans ce livre, c'est de cette indifférence, cette façon de continuer de vivre, alors que bon, ben là, on est à Florence en 1937, déjà en Allemagne, il se passe des choses terribles, qui est à côté, c'est un allié, l'Allemagne est alliée de l'Italie, et les gens, ça ne les empêche pas de vivre. Et ce qui est curieux, c'est que ce livre que j'ai écrit, évidemment, avant ce qui se passe maintenant entre cette guerre en Ukraine, montre exactement que les gens continuent de vivre. Et moi, je me souviens qu'à chaque fois, en me souvenant de cette période, je me demandais comment on faisait pour vivre normalement, d'aller à la plage, d'aller au restaurant, de voir ses amis, alors qu'à une heure d'avion, il se passait des choses terribles. Et là, on vit ça. On vit ça.
Alors, Maud, en 1937, vous n'étiez bien sûr pas là.
Non.
Mais en revanche, l'antisémitisme, vous l'avez connu à travers le destin de vos parents.
Je l'ai même connu pendant la guerre. Moi, je suis un petit enfant de la guerre. Je suis né fin 38. Donc, j'ai connu ça pendant la guerre. J'étais une enfant cachée. Je le savais déjà. Mais l'antisémitisme en Italie était quasi inexistant. C'était pas quelque chose qui était... Alors qu'ils étaient très catholiques, hein, ils sont très catholiques. Il n'y avait pas de problème. Contrairement à la France, dans cette période-là, où entre les deux guerres, l'antisémitisme était extrêmement virulent.
Alors, le roman est aussi l'occasion de revisiter l'antisémitisme en Europe.
En Europe.
L'antisémitisme a été fort en Pologne, en Ukraine, en Roumanie. Et même dans la Russie des Tsars.
10 000 fois plus qu'en Europe de l'Ouest. Hein. L'Ukraine a terriblement participé au nazisme. La Pologne aussi, bien sûr, on le sait. Enfin, je veux dire, l'Europe de l'Est en général. L'Europe de l'Est en général est un creuset.
Maud Tabachnik, avant que nous ne marquions une première pause musicale, je reviens sur le titre de votre roman. Les faisceaux, vous l'avez bien dit, c'est une allusion évidente au régime mussolinien, le régime de Musso, hein, Mussolini, pas Guillaume Musso,
non, pas Guillaume.
Attention. Hein. Et il y a la peur. Et à un moment, Judith dit, elle est encore à Florence, elle dit « j'avais peur de la peur ».
Oui.
Et j'aimerais que vous explicitiez un peu cette formule qui est très intéressante. J'avais peur de la peur.
C'est quelque chose que... Moi, j'ai peur de la peur et c'est pour ça que je n'ai pas peur. Vous voyez, je ne suis pas quelqu'un qui ait peur. J'ai traversé des moments, même après la guerre, très, très, très difficiles. Parce que je sais que la peur, c'est la porte ouverte à toutes les lâchetés, à toutes les turpitudes. Ça rend les gens au pire d'eux-mêmes. Mais c'est nécessaire, la peur. C'est une sauvegarde, c'est une façon de survivre, la peur. Hein. C'est complètement naturel. C'est tous les êtres vivants. Qu'on soit à quatre pattes ou à deux pattes, on a les mêmes réactions de la peur pour sauver sa peau. Les animaux, quand ils s'approchent, quand un ruminant s'approche d'un abattoir, il ne sait pas ce qui va se passer, mais il tremble, il sait qu'il va mourir. C'est comme ça, c'est dans nos gènes à tous. Et, mais chez les humains, ça leur fait faire beaucoup de vilainie.
La réflexion que je me faisais, c'est que vous avez créé de toutes pièces des tueurs. Certains d'ailleurs vous ont été inspirés par la réalité, parce que je vous ai entendu souvent dire que finalement, des êtres malfaisants, des criminels, des tueurs, des assassins, quelque part, ce sont des gens parfois ordinaires.
Tout à fait. Ce sont pas parfois, ce sont toujours des gens ordinaires. Ce sont toujours, ils n'ont pas de plaque sur la figure, ils n'ont pas les dents qui dépassent. Ce sont des gens totalement ordinaires. On ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose. C'est pas mental, c'est pas des fous. Hein. Hitler n'était pas un fou. C'était pas fou dans le sens médical du terme. C'était pas un fou. Celui qu'on a en ce moment, le Poutine, c'est pas un fou au sens médical du terme. C'est autre chose. C'est autre chose qu'on est bien incapable d'expliquer, parce qu'on n'est pas tous, par chance, capables de faire ça. Ça, c'est certain. Mais il y a en nous cette fameuse face sombre qu'il nous faut combattre. Alors, ça ne va pas, notre face sombre ne va pas jusqu'au crime, mais elle va quelquefois dans des attitudes effrayantes pour notre entourage, pour professionnellement, amoureusement ou n'importe quoi. Vous voyez, c'est et il faut combattre cette dualité que l'on a en nous. Et ces gens-là, des Hitler, des Pol Pot, des Staline, ne peuvent pas. Emportés par leur ambition, emportés par leur soif de pouvoir. Par
la gloire.
La gloire. Une gloire mortifère et mortelle que quand on est bien constitué, on refuse.
Alors, ce que je voulais dire, pour reprendre mon début de réflexion, vous avez créé, inventé des personnages qui incarnent le mal. Or là, vous n'avez pas eu à les inventer.
Ah non,
vous les avez pris dans l'histoire européenne.
Voilà.
Maud Tabachnik, on va marquer une première virgule musicale, si vous le voulez bien. Je rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à midi dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, pour nous parler de votre dernier roman, Les faisceaux de la peur, disponible chez...
Eh bien, merci de me recevoir déjà.
City Edition. Merci Maud, c'est un plaisir. Nous revenons dans quelques minutes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Maud Tabachnik est en cette fin de matinée devant notre micro pour son roman « Les faisceaux de la peur ». Maud Tabachnik, votre roman est aussi une très belle leçon d'histoire. Parce que certains, il y a, j'allais dire, la strate narrative. Nous suivons Judith, cette adolescente
ses
amoureuse,
amis,
attirée
amis,
par les femmes,
famille.
Ses amis, la famille, qui justement se pose beaucoup de questions, voyant la politique de Mussolini leur être de plus en plus défavorable. Et alors, j'aimerais que vous nous rappeliez un peu la condition des Juifs en Italie à partir de 1937, parce que on y apprend notamment que les parents de Judith, qui sont donc, je le rappelle, des Juifs non pratiquants, ils s'appellent Livi.
Quasiment non croyants.
Ils payent une taxe spéciale due à l'État parce qu'ils sont Juifs.
Oui, oui, mais ça, c'est les taxes qui ont été payées en France, pas tout le temps, mais qui ont été payées en France, qui ont été payées dans beaucoup de Vous savez, j'ai écrit un livre sur le ghetto de Venise, qui se passait en 1716.
Qui est le plus vieux ghetto juif d'Europe. Hein.
Oui, et là, les juifs du ghetto payaient même leurs gardiens. On les obligeait même à payer les gardiens. Le ghetto était fermé la nuit avec des chaînes, et ils payaient les gardiens qui les gardaient.
Alors,
c'est une spoliation. Vous savez, il y a tout le temps eu au cours de l'histoire, depuis surtout l'an 1000. L'an 1000, quand l'Église a décidé que vraiment... vous savez pourquoi l'antisémitisme a explosé? C'est parce qu'en l'an 1000, il y avait beaucoup de catholiques, en France par exemple, qui se convertissaient au judaïsme. Et l'Église, ça ne lui plaisait pas. Donc elle édifiait des bulles pour mettre les juifs, je parle de France là, à part. En Italie, ça ne s'est pas passé. En Italie, ils avaient un tas de... Au 18e, 19e siècle, 17e, il y avait beaucoup de gens, de juifs, dans les hautes sphères gouvernementales, ce qu'ils n'auraient pas pu se faire en France. Vous voyez, c'est ça qui est très curieux en Italie. Et alors, eux, ils ne s'en rendaient pas compte, parce que tout se passait bien, jusqu'à ce qu'il y ait, quand on a un régime fasciste mussolinien, il y a toujours des nervis qui profitent de cette occasion pour se comporter comme des voyous, comme des voleurs, comme des assassins. Toujours. Ça draine une clientèle. Ça draine une clientèle, si je puis dire. Et là, ils ont commencé... D'abord, le père du Judith a perdu son emploi d'ébéniste, d'ébéniste, vernisseur. Sa femme, la mère de Judith, qui tenait une boutique d'objets florentins, On lui a vandalisé. Le frère a été. On lui a dit qu'il ne pouvait plus jouer dans l'équipe de football de son lycée, en prenant un prétexte. Vous voyez.
Le doyen refuse de l'inscrire en deuxième année de droit. Hein.
Voilà. Et ça, c'était des. Pétain a fait des lois anti-juives en 1940. Eux, l'ont fait 2 ans avant, en Italie. Mais ça n'avait rien à voir. C'était beaucoup plus relâché. Vous voyez, ils ont pris peur parce qu'il y avait Hitler à côté. Et puis ils se sont dit, parce qu'ils sont passés en France à ce moment-là, ils ont migré en France, la famille Livi, en laissant leur joli petit appartement de Florence. Et à ce moment-là, les immigrés n'avaient pas l'accueil qu'ils ont maintenant en France. Pas du tout, du tout, du tout. C'était très difficile de migrer en France, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Polonais. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Il n'y avait pas d'aide.
Mais même les Juifs venus d'Allemagne ou d'Italie ont été mal accueillis par les Juifs français.
Par leurs coreligionnaires.
Qui étaient installés depuis longtemps.
Parce qu'ils étaient totalement. Les Juifs étaient totalement assimilés en France. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui venaient d'Allemagne? Ça allait parce qu'ils étaient européens de l'Ouest, on peut dire. Donc il y avait beaucoup d'intellectuels et de gens comme ça. Mais c'était pas terrible quand même. Mais il y avait aussi les Juifs d'Europe de l'Est qui étaient socialement moins éduqués, on va dire. Vous voyez, c'était les Européens de l'Est, comme ils sont maintenant. Excusez-moi, mais comme ils sont maintenant. Donc, les Juifs de France se sont dit, mais on va nous assimiler, ça va nous causer tort. Alors, ils ne les reprochaient pas, mais ils ne les accueillaient pas à bras ouverts. Parce qu'il y avait aussi une politique en France de ne pas accueillir les immigrés.
Je reviens sur les conditions de vie. Alors, on va parler de cette famille Lévy qui sera contrainte pour exister, en fait, de quitter l'Italie fasciste et d'aller en France, pays qu'ils idéalisent un peu au
bien
départ.
Bien sûr. Hein. Mais vous savez, les Juifs, ils disaient « heureux comme Dieu en France ».
Oui.
C'est une phrase qui était prononcée dans tous les pays d'Europe. « Heureux comme Dieu en France ». Parce que c'était quand même un pays de grande démocratie, grande liberté. Il n'y avait pas de pogrom. Il n'y avait pas de pogrom en Italie, hein, je parle pour les Juifs d'Europe de l'Est. Il n'y avait pas de pogrom, il y avait des histoires de gouvernement comme on a maintenant. Ils ont blessé Léon Blum gravement ou des choses comme ça. Mais vous voyez, il n'y avait pas d'assassinat. Les assassinats sont venus pendant la guerre. Mais il y avait un rejet Maurras, la libre parole, enfin des journaux extrêmement antisémites.
Les héritiers de Drummond, hein.
Oui, c'est ça, les héritiers de Léon Daudet, de Drummond.
Charles Maurras aussi.
Maurras, les Maurassiens. Mais bon, c'était, comment dirais-je, des insultes épouvantables qu'on ne pourrait plus prononcer maintenant. Mais il n'y avait pas de mort. Tandis que les Juifs d'Europe de l'Est fuyaient parce qu'ils étaient tués.
Ils étaient tués. Il y avait des massacres. Il y avait un appel à la haine et à la tuerie.
Bien sûr, voilà. Hein. Alors c'était souvent des gens des villages ou des gens comme ça. Vous voyez, alors ils étaient socialement moins installés. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a eu un peu...
Maud Tabachnik, vous, on revient sur la condition des Juifs en Italie. Hein. Le Tessera del Pane.
Oui.
Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot?
La carte du pain.
S'il vous plaît.
La carte du pain. Ben, c'était. Vous savez, la carte du pain, on a eu, après, pendant la guerre, les cartes pour manger. On avait des cartes de
rationnement.
Voilà. Et alors là, c'était une possibilité de travailler. C'était une possibilité d'être. Parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé à partir de 1938 surtout. À partir de 1938 surtout, où il y a vraiment eu pas des exactions violentes, pas à ce moment-là. Mais vous rappelez sûrement du Jardin des Finzi Contini, ce film magnifique de Vittorio De Sica, où la famille des Finzi Contini, qui était une famille aristocratique, à Florence, je crois bien, et qui tout à coup s'est vue mise au banc de la société. Repoussé par les amis, repoussé par tout le monde. Alors ce qu'on appelle maintenant la systématisation, la stigmatisation, un mot qu'on adore et qu'on met à toutes les sauces. Et là, c'était vraiment ça. On les stigmatisait, c'est-à-dire qu'on les mettait de côté. Aussi bien les familles de importantes que les autres familles. Alors, c'était pas violent. Il y a eu des morts, il y a eu des déportations, hein. il y a eu des assassinats, mais plus tard. Mussolini... Curieusement, n'était pas un assassin. À côté d'Hitler, c'était rien. Voyez.
C'est peut-être lié aussi au profil Mussolini, socialiste à l'origine,
oui.
Et qui était athée.
Oui.
Qui n'était pas très frotté,
voilà.
De religion,
voilà.
Quelle qu'elle soit.
Non, il était athée. C'était un type qui voulait le pouvoir. Point à la ligne. Il paraissait socialiste d'ailleurs. D'ailleurs, le socialiste, ça ne voulait pas dire grand-chose pour lui. Il voulait le pouvoir. Il voulait profiter de la. Même quand il a été avec la Légion Condor sur la guerre d'Espagne en 36. C'était pour vendre des armes. C'était pour. Il pensait bien que Hitler allait vaincre les républicains. Et lui, il en profitait. Vous savez, vous avez des gens comme ça. Et c'est. Moi, j'ai travaillé sur Mussolini. Je savais déjà qu'il était un peu comme ça. Mais c'était vraiment ça. S'il y avait eu que Mussolini en 40, on n'aurait pas eu les millions de morts que l'on a eu.
Maud Tabachnik, vous signez Les Faisceaux de la peur. C'est votre dernier roman chez City Éditions. On marque une nouvelle virgule musicale et nous nous retrouvons juste après.
La danseuse sofa qui m'a fait tienne. Je affaiblis. Je disparais derrière les persiennes. Je persiste à broyer du noir, à brouiller les pistes. Je te tolère.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Les faisceaux de la peur, c'est le titre du dernier roman de notre invité Maud Tabachnik. C'est chez City Éditions. Alors, Maud Tabachnik, le roman s'ouvre à Florence, dans l'Italie de Mussolini en 1937. Il faut rappeler qu'en 1936, en France, il y a eu le Front Populaire, avec une figure d'origine juive, hein, Léon Blum. Est-ce que, d'ailleurs, justement... Pour notre famille, la famille de Judith, ses parents et le frère, il s'agit de quitter l'Italie où la vie pour les Juifs devient insupportable,
oui,
est devenue insupportable.
Mmh.
La France devient une terre d'accueil pour eux, ils arrivent à Paris. Et là, Judith se rend compte, il y a une scène un peu parallèle à la scène de l'assassinat sur la place principale de Florence. Il y a une agitation de jeunes gens, les fameux croix de feu, tout de même d'extrême droite, fasciste, hein, le fameux mouvement du colonel de la Roque. Et Judith assiste à des échauffourées très violentes entre jeunes d'extrême droite et
jeunes de gauche.
Des cocos, comme on, hein,
ouais.
Des communistes. Et là, elle croise un jeune homme.
Ouais.
Je ne sais pas si au départ elle est sensible à lui. Elle est en tout cas interpellée par le fait qu'il est fasciste.
Oui.
Pourtant, c'est un homme tout en nuances.
Oui, il est très nuancé. Mais vous savez, les croix de feu du colonel de la Roque étaient d'extrême droite. Mais mon père, par exemple, qui est né à Paris, les a connus. Lui, il était jeune garde socialiste. Mon père. Des jeunes gardes socialistes. Et les croix de feu venaient dans le quartier juif de Paris, vous savez, la rue des Rosiers, tout ça.
Hein.
Bon, ça se cognait, ça se tapassait, ça s'abassait, ça se. Bon. Mais le colonel de la Roque a fait une très jolie guerre. Ça n'avait rien à voir avec Maurras. C'était un homme d'extrême droite, mais c'était un patriote.
Mais il n'était pas antisémite.
Non. Et c'était un patriote. Et pendant la guerre, lui et son mouvement se sont bien comportés. Contrairement, évidemment, à Maurras et tout ça, qui était aussi nationaliste.
D'ailleurs, Judith, en rencontrant Thierry, alors il s'appelle Thierry de Sainte-Foy, hein, son oncle est ministre de la Justice. Alors ça va aider la famille, je ne raconte pas trop, mais ça va aider la famille de Judith.
Voilà.
Et puis la maman de Thierry de Sainte-Foy, elle est apparentée à la famille de Georges Bonnet. Bon,
voilà.
Elle rentre aussi et côtoie des jeunes gens d'un Paris
argenté. C'est le hasard des rencontres. C'est le hasard des rencontres. Et comme Thierry de Sainte-Foy, ses amis sont des Italiens, pas du tout le même genre que les Livi, parce qu'ils font partie de la famille Agnelli, mais ils sont arrivés en France pour des problèmes familiaux, mais sans gravité. Et c'est grâce avec à cette rencontre avec les amis italiens, avec Thierry de Sainte-Foy, avec tout ça, qu'ils arrivent à s'insérer. Enfin, Judith au moins. Parce que les parents, bon, ils sont même pas au courant de tout ça. Vous voyez, ils sont. C'est quand ils reçoivent leur papier de naturalisation, alors qu'on les donnait jamais. Mais comme vous avez dit, l'oncle de Thierry de Sainte-Foy était Jacques Marchandeau, ministre du gouvernement de l'époque, et qui était un type qui avait fait un décret comme quoi on ne devait pas faire du mal aux gens en raison de leur origine religieuse, de leur ethnie, de leur origine pas raciale, mais étrangère. Déjà, c'était le premier décret-loi qui permettait, qui était dans les droits de l'homme. Vous voyez, les fameux droits de l'homme, c'est un décret-loi qui interdisait même les insultes dans les journaux, vous voyez, des choses comme ça. Donc, le nouveau copain de Judith se sert de son oncle pour leur faire avoir des papiers.
Il est vrai, quand on consulte la presse française des années 30, qu'il y a une haine
terrible,
qui est aujourd'hui impensable. Lorsque Léon Blum devient président du Conseil, j'ai oublié son nom, mais quelqu'un, je crois, dans l'hémicycle, a dit « Ce vieux peuple gallo-romain sera gouverné par un juif ».
Oui, oui, mais ça, c'était le minimum, cher ami. C'était le minimum. On ne peut pas. Moi aussi, bien sûr, j'ai lu les journaux de l'époque. Je suis partout, le Libre-Parole, enfin, c'était Gringoire.
Il y a l'anti-juif, même.
L'anti-juif.
Le journal s'appelle carrément l'anti-juif. Voilà, hein, le message est clair.
Oui, hein. Oui. Ah, c'était abominable. Bien sûr que maintenant, on se retrouverait avec des amendes énormes, parce que c'est fini, ce temps-là. Mais là, c'était aussi le temps de Céline. Hein. C'est de l'écrivain Céline.
Oui. Alors, justement, Maud, vous les citez, ces écrivains,
oui.
Qui avait un antisémitisme littéraire, d'ailleurs.
Il les rebattait, Drieu-La Rochelle.
Drieu-La Rochelle, avec son roman Gilles,
ben oui,
sont de très bons écrivains. Céline est un très grand écrivain. Alors vous, est-ce que vous êtes du genre à faire la part des choses ou à tout jeter au rebut, comme certains le font, à mon avis, à tort? Est-ce qu'il faut faire la part des choses?
Drieu, non. Drieu, parce que Drieu, bon, c'est un antisémite de l'époque, si vous voulez. Mais Céline, oui. Céline m'a valu une bagarre dans une bibliothèque à Chinon, une bagarre physique, avec un enseignant qui a pris la mouche, je ne me rappelle plus exactement, et qui m'a balancé dans les étagères de la bibliothèque municipale de Chinon. Et là, je me suis mise en colère.
Alors, quel était le point de départ?
Le point de départ, c'était un livre, il y avait Mein Kampf dans la bibliothèque. Je dis à la bibliothécaire, ne le laissez pas là, c'est pas un livre d'histoire, Mein Kampf, c'est une apologie du meurtre. Mettez-le pour les étudiants, il y avait une salle pour les étudiants, mettez-le, mais il faut prévenir ce que c'est. Arrive un type que je connaissais pas, bien sûr, qui dit, mais alors on peut rien dire, on peut rien faire quand même. Si c'est pas une question, si on peut rien dire, on peut rien faire. Mein Kampf, c'est pas un livre d'histoire. C'est un appel au meurtre. Et de fil en aiguille, comme il était enseignant, il connaissait un peu la littérature. Et tout d'un coup, moi j'ai tourné le dos à un moment, je vais continuer à discuter avec ce crétin. Il me balance donc dans les étagères.
Mais Maud, vous étiez écrivain connu au moment de cet accident?
Oui, parce que j'ai eu une lettre de la mairie de Chinon s'excusant. Mais moi, il ne connaissait pas mon nom, il ne connaissait rien de moi. C'était un habitué de la bibliothèque. Et quand il m'a balancé dans les étagères, alors là, je ne sais pas si lui. Je me suis retourné, puis j'ai vraiment cassé la figure.
Est-ce que vous êtes... Parce que la quatrième de couverture de votre dernier roman, dont je rappelle le titre, Les faisceaux de la peur, précise que vous signez une magnifique fresque historique, sans doute la plus personnelle de vos œuvres. Est-ce que vous ressemblez à Judith?
Bien sûr. Enfin, c'est Judith qui me ressemble, cher ami.
Oui, pardon.
Hein, pardon. Attendez, quand même.
Excusez, c'est l'inverse. Mais parce qu'elle aussi, elle rentre dans la bagarre.
Oui,
elle va coller des affiches.
Oui. Mais je vais vous dire, dans tous mes livres, il y en a une petite quarantaine quand même, hein, pas toujours là-dessus, toutes les femmes sont des lionnes.
Vous en êtes une?
Je crois, parce que je suis quelqu'un qui ne... Parce que je n'ai pas peur. C'est pour ça qu'on parlait de la peur tout à l'heure. Oui, je peux vous dire que j'ai pas peur, c'est idiot de dire que j'ai pas peur. Bien sûr que j'ai peur d'un tas de choses comme les gens. Mais je n'ai pas peur. La peur n'est pas le premier sentiment que j'ai. si je suis confronté à quelque chose. C'est pas la peur, c'est la colère.
Et vous pouvez rentrer dans de noires colères.
Des colères violentes, pas noires, oui, noires, à manquer de réflexion, parce que la colère, c'est pas pour la réflexion.
La sottise, la bêtise, la connerie, ça vous exaspère.
Alors là, ça marche très bien sur moi.
Oui.
Ça marche très bien.
Alors, Maude, j'aimerais qu'on revienne sur ce Paris des années 37, 38, 39 que Judith et sa famille découvrent. Vous parlez, alors je suppose que vous êtes documenté, en tout cas.
Oui, il y a beaucoup de documentation. Au point de vue historique, comme tous mes bouquins historiques, c'est la fiction, c'est les personnages qui sont la fiction.
D'accord.
Mais autour, c'est sûr.
Lorsque Judith et sa maman vont trouver des petites robes pour être un peu à la mode de Paris, elles vont au magasin Réunis et elles vont à un magasin, oh j'adore son nom, la Toile d'Avion.
Et bien sûr, mais vous êtes trop jeune pour le connaître, mais la Toile d'Avion est restée longtemps, même après la guerre. Je crois même que j'ai eu une cousine de ma mère, pas à moi, qui a travaillé. C'était Place de la République. Vous voyez, et je pense que la Toile d'Avion, ça a eu un rapport un peu avec les parachutes ou les trucs comme ça, vous voyez, la Toile d'Avion.
Et alors, vous citez un café qui s'appelle le Thermomètre.
Et qui, je crois, existe encore et qui existait déjà à cette époque.
Et alors, vous faites revivre un Paris, en tout cas des métiers qui ont disparu, le glacier par exemple, le vendeur de glace. Pas les glaces qu'on mange,
non, la
glace pour rafraîchir
un apéritif. Ça j'ai connu tout de suite après la guerre, où j'étais plus j'avais 5 ans, 6 ans, on habitait avenue Le Ménil, qui est dans le 12e arrondissement, et le matin, je ne sais pas si c'était le dimanche, je ne me rappelais plus, mais je crois que c'était le dimanche, passait une charrette, tirée par un cheval, dessus il y avait des blocs de glace, et le gars criait « glacier, glace, la glace !» On descendait avec un seau, une cuvette, il vous coupait un bouc de glace pour vous rafraîchir. Il n'y a pas de réfrigérateur. Hein.
Alors vous parlez aussi du billet de 5 francs qui s'appelle un billet
un
berger.
Oui, ça, vous voyez.
Parce qu'il y avait un berger sur le billet.
Il y avait un berger,
francs.
Voilà. Et là, il a fallu que je travaille parce que je crois que mes parents, comme vendeurs de chemiseries, ils étaient vers 17-18 ans, je crois qu'ils gagnaient 18 francs par mois. Il y avait des petites payes, c'était 18 francs, oui, je crois que c'est ça.
Et il me semble, Michael, le frère de Judith, trouve un emploi de garçon de café. Je crois qu'il touche 1500 francs par mois.
Non, pas 1500 francs, pas tant que ça. Oh, non, 1500 francs, c'était
une fortune.
Ah oui, c'était beaucoup. Non.
Alors, en
1500
revanche,
francs, 1500,
en revanche là encore, histoire de la vie intellectuelle, votre héroïne, la jeune Judith, bon, 18 ans, 19 ans, elle n'est pas encore majeure, hein?
Non.
Elle rencontre parmi ses amis une femme qui va devenir une figure intellectuelle.
Anna Arendt.
Avec des combats sionistes très importants.
Oui. Anna Arendt.
Un mot d'explication et de rappel s'impose, Maud Tabachnik.
Anna Arendt était à Paris. Elle avait fui Königsberg, sa ville de naissance.
Donc l'Allemagne nazie, on est d'accord.
L'Allemagne nazie. Mm-hmm. Elle a vécu à peu près 5 ans, 6 ans à Paris, où elle avait beaucoup de mal à travailler. Je vous dis, c'était très difficile. Les immigrés se plaignent maintenant, mais bien sûr qu'à côté, c'est des voies royales qu'ils ont. Personne n'avait un rond, personne ne touchait rien. Il fallait vraiment trouver du travail, il fallait avoir, maintenant que pareil, un papier pour travailler. Et elle rencontre Anna Arendt et elle est éblouie par cette femme, comme on peut, j'imagine, n'importe qui a dû être ébloui en la rencontrant, et qui lui raconte qu'elle fréquente tel et tel cercle intellectuel, justement aussi d'autres juifs qui sont arrivés d'Allemagne et de partout, et qui ont reconstitué un milieu intellectuel.
Alors d'ailleurs, il est question du bureau social sioniste.
Oui.
C'est-à-dire qu'Anna Arendt essaie.
Oui, était sioniste.
De fournir une sorte de visa permettant à de jeunes juifs d'aller travailler.
D'aller travailler en Palestine.
En Palestine.
En Palestine.
L'État
oui.
d'Israël n'existe pas encore.
Non, mais la Palestine, c'est le nom biblique. Sous Adrien, sous l'empereur Adrien, c'était la Palestine.
Qui est sous mandat britannique dans les.
Sous mandat britannique. Oui, sous mandat britannique. C'était la Palestine, mais c'est pas la Palestine de maintenant. Maintenant, les Palestiniens ont pris le nom, mais ce n'était pas la Palestine. C'est la Palestine romaine.
Et alors, justement, Maud Tabachnik, retracer le parcours d'une jeune Italienne qui fuit l'Italie fasciste avec ses parents, qui arrive en France, c'est aussi une façon de réévoquer l'histoire de la France.
Oui.
Et de montrer que la France a aussi une position ambiguë, pas seulement à l'égard des Juifs,
non,
à l'égard aussi de la montée en puissance d'Hitler, à
voilà,
différentes étapes
voilà,
de l'impérialisme nazi, de
ah,
certaine
oui,
manière,
oui, oui,
où
mais...
les démocraties se sont couchées devant ah, mais, le dictateur.
Les accords de Munich, dont on parle beaucoup. Chamberlain était aussi un type pas du tout intéressant. Les Anglais n'étaient pas du tout intéressants à l'époque. D'abord, il y avait un parti nazi important en Angleterre, et il n'avait pas envie de faire la guerre. À l'époque, il n'avait vraiment pas envie. Je vais vous dire, cher ami, si on n'avait pas eu Churchill, je ne suis pas sûr qu'on serait tous les deux là à discuter.
Alors, le Churchill,
le
premier ministre des années 40,
voilà,
celui qui fait face aux attaques incessantes aériennes
Et qui encourage son peuple. On dit que Zelensky, en ce moment, il est churchillien. Oui, on peut dire ça, parce qu'il encourage son peuple.
Il faut dire que Churchill avait prévenu les Anglais, il n'a pas menti à son peuple.
Non.
Je n'ai rien d'autre à vous offrir que de la sueur, du sang et des larmes.
Voilà, c'est ça. Et le peuple anglais était résilient, comme on dit maintenant. D'abord, ils habitaient une île, alors ils étaient un peu protégés aussi. Et puis bon, ils ont eu Churchill. Nous, on n'a pas eu Churchill. On n'a pas eu sur ça.
Justement,
on a eu Pétain, nous. C'était pas pareil.
Ce fut très différent, c'est clair. Le regard de Judith sur les Français qui assistent à l'agitation politique, entre les tenants, les communistes, les socialistes, ligues, etc.
Les bagarres, cher ami, qu'il y a maintenant, c'est les mêmes.
Et vous écrivez dans votre roman. Alors là, c'est le regard de la petite Judith italienne sur les Français. Tous ces Français qui n'aiment rien tant que se taper dessus et qui râlent sans arrêt. Mais ça me semble être toujours actuel.
C'est les mêmes. Ce sont les mêmes.
Et qu'est-ce qui vous exaspère dans la France d'aujourd'hui, Maud
Tabachnik? Ce qui m'exaspère dans la France d'aujourd'hui, c'est la plainte permanente.
Les jérémiades.
Voilà. Voilà. Ils ne se rendent pas compte. Alors, je ne dis pas que c'est pas le nirvana. Mais ils ne se rendent pas compte quelle chance on a d'être dans un pays comme le nôtre. C'est vraiment une grande chance. Et quand j'entends aussi bien certains hommes politiques que je ne veux même pas nommer, qui traitent ce pays de dictature, je ne parle pas des gens de la rue. Les gens de la rue sont tellement quelquefois hors du réel, hors sol, que traiter de dictature Macron...
Alors peut-on dire que les 5 ans macroniens ont été un centrisme autoritaire?
Oui.
Parce que autoritaire n'est pas incompatible avec
la
démocratie.
Autoritaire, il était autoritaire, pas tellement, parce qu'avec les gilets jaunes, il n'a pas été très autoritaire. Ils se sont tapés dessus, mais il a rien fait.
Il y a eu tout de même des répliques policières, parfois, des répliques policières un peu disproportionnées, parfois.
Vous étiez à Paris?
Non, Maud.
Bon.
Vous y étiez?
Moi, j'habite Paris. Alors, je peux vous dire que ce qui était le plus choquant, c'est quand les gilets jaunes mettaient le feu partout, dans les hôtels, dans les immeubles, cassaient tout.
Mais étaient-ce de véritables gilets jaunes? Parce que...
Comment voulez-vous savoir?
Ils
étaient tous habillés en jaune. Hein. Alors, c'est vrai que, comme on dit, les ronds-points, ça allait. Mais il n'y a pas tout de suite eu les Black Blocs. Il y a eu quand même une fascisation, je me rappelle du 18 décembre ou un truc comme ça, quand ils ont pris d'assaut l'Arc de Triomphe, ils ont tout cassé. Il n'y avait pas trop de Black Bloc en ce moment-là. Hein. Alors, je ne veux pas rentrer dans la querelle, ils avaient raison, ils n'avaient pas raison de casser. Ils avaient peut-être raison de se plaindre, peut-être, je ne sais pas. Vous savez, quand on est dans une ville... On ne se rend pas compte, et eux non plus ne se rendent pas compte ce que c'est que vivre dans une ville pour des ouvriers ou des petits employés, où tout est 3 fois plus cher qu'en province. Je vous assure, ils ne se rendent pas compte. On se plaint de l'essence. Bien sûr, tout le monde dérouille avec l'essence. Mais ils peuvent se garer devant chez eux, nous, jamais. Vous voyez, je veux pas le voyez.
On peut choisir de ne pas vivre à Paris, Maud.
Comment on peut choisir de ne pas vivre en province? Ils ont une maison, ils n'ont pas de charge. Ils n'ont que la réparation des maisons. Et quand on est né à Paris, on vit à Paris. Et quand on veut travailler, on vit aussi à Paris. parce qu'il y a beaucoup, plus de travail à Paris qu'ailleurs. Vous voyez, mais ça coûte beaucoup de vivre à Paris. Ça coûte beaucoup, beaucoup. C'est une ville. En plus, ça devient une ville effrayantissime à vivre. Je dis pas qu'ils ont tort, si vous voulez, parce que les distances entre là, ce dont ils ont besoin et leur maison, ça va pas. Mais ils ont. Pour moi, je suis pas macroniste du tout. Mais je dis pas que Macron a été autoritaire.
Vous savez pour qui vous votez?
Non.
Pas encore.
Pas encore.
Bon.
Peut-être Pécresse.
Ah ben moi j'attendais pas de réponse.
Vous voyez, hein, mais moi vous savez.
Ah parce que c'est une
moi,
femme.
Moi je suis une
parce
femme
que
libre.
C'est une femme.
Non parce qu'elle a un bon. Oui déjà. Et qu'elle a un, pour moi un programme qui me convient. Oui. Elle est à la fois ferme et sociale.
Revenons au roman.
Oui, revenons
les faisceaux,
au roman.
Les faisceaux pardon, de la peur. Il y a un couple aussi. Alors. Un couple intellectuel français, un modèle de couple que
Sartre et Beauvoir.
Exactement.
oui, parce qu'on les rencontrait et à cette époque-là, on les rencontrait comme on les rencontrait après la guerre. Hein. C'était au De Magot, au Café de Flore, à Saint-Germain. C'était, on le sait. Moi j'ai été sartrienne longtemps, j'ai été pour Sartre longtemps quand j'étais étudiante. Mais après, je me suis rendu compte que c'était pas un type aussi bien que je le pensais.
C'est pas Gide, en tout cas.
Alors Gide,
vous
a été courageux.
Vous semblez l'aimer, parce que lui...
Il a été courageux, parce que...
Intellectuellement.
Intellectuellement. Il a été courageux parce que un communiste avéré... va en Russie, en Union soviétique.
En Union soviétique.
En Union soviétique, et se rend compte de ce que c'est. Et ramène un livre. Et dit ce que c'est. Mais il a été vilipendé.
Mais ce qu'Aragon n'aurait pas fait, par exemple.
Non.
Alors, et ça s'appelle c'est de la probité plus que du courage.
Ah, c'est de la probité intellectuelle. Et c'est même plus que ça, c'est du courage. Parce que même après la guerre, les auteurs qui critiquait le communisme, je peux vous dire que c'était grave. Hein.
Bon, Gide, prix Nobel de littérature.
Oui, puis un homme courageux, par sa vie même, vous voyez, il disait ce qu'il était à l'époque.
Alors, pas toujours, sans doute, moralement, pas toujours très convenable. Quand il caressait des petits garçons, mais c'était une autre époque, on lui disait, mais André, tu te rends compte de ce que tu fais. Lui disait, oui, mais j'ai mon prix Nobel qui me protège.
C'était une autre époque.
C'est une autre époque.
Vous savez qui a perduré longtemps. Hein.
Oui. Alors justement, parlons des amours différentes, parce que c'est aussi un des aspects du roman, ce que vous appelez les amours différents, à savoir que Judith, bon, adolescente, elle a la petite Francesca à Florence. En France, elle rencontre
une Italienne
qui tient une galerie d'art.
Voilà, qui tient une galerie d'art et qui est une amie d'Anna Arendt et qu'elle rencontre dans une soirée donc chez ces Italiens. Et elle est éblouie et elle tombe amoureuse. C'est une femme qui préfère les femmes.
Alors, moi, j'aurais bien aimé quand même que vous racontiez plus en détail. Vous parlez de ce cabaret à un moment, Sophia. Et Judith vont dans un cabaret fréquenté par les femmes brillantes et fortunées du monde lesbien. Il existait réellement à cette époque.
Mais il n'y a pas très longtemps qu'il a. Moi, je ne fréquente pas, mais il n'y a pas très longtemps qu'il a disparu. Je ne sais même pas s'il a disparu, il a dû se transformer.
Alors, vous n'auriez pas aimé une petite scène un peu érotique?
Non, non, c'est pas mon genre, ça. Moi, j'aime suggérer. Puis dans ce cabaret, je vous parle de Nathalie Barnet, qui était une femme exceptionnelle. Femme exceptionnelle de cette époque. Ce que j'ai voulu dans ce livre, c'est donner l'ambiance de la France avant la guerre. Même pas avant septembre 39. Parce que de septembre 39 à juin 40, il ne s'est rien passé. La fameuse drôle de guerre.
Enfin, la drôle de guerre qu'on a payé fort cher.
La paix d'une guerre.
Est-ce que vous rappelez Gamelin, ce général, vieillissant, mais qui n'est pas à la hauteur, puis qui est malade.
Ça, on le sait que depuis... Oui. On n'en parle que depuis peu, mais il était complètement mangé par la syphilis.
D'ailleurs, vous citez Georges Bernanos.
Oui.
C'est lui qui ouvre le roman. Vous voulez lire la citation que vous avez choisi mettre au début de votre roman, Maud Tabachnik?
Alors, Georges Bernanos a dit... Les civilisations meurent comme les hommes, et cependant, elles ne meurent pas de la même manière. La décomposition chez elles précède leur mort au lieu qu'elle suit la nôtre. Et c'est vrai que les civilisations pourrissent avant de mourir. Et nous, c'est le contraire. On meurt avant de pourrir.
Et vous pensez qu'actuellement, notre civilisation est un petit peu en
putréfaction ? Oui, oui. Elle est pas en grande forme.
Donc méfiance, prudence.
Elle n'est pas en grande forme. Mais je ne sais pas quelle prudence il faut avoir. Si je savais, je serais plus optimiste. Mais je ne sais pas quelle prudence il faut avoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que tout part un peu à volo. Là, la culture. La culture. Je sais ce que la culture, oui. Parler un bon français, c'est très rare. Avoir la culture, c'est très rare. Être courtois, poli, c'est très rare. C'est comme ça qu'une civilisation commence à périr.
On va se quitter sur ces...
Parole un peu
sur
dure.
Sur ces constats un petit peu graves, mais... Ben oui, parfois
mais là, je dois dire que l'actualité me donne raison.
Oui. Hein? En tout cas, Les faisceaux de la peur, c'est le titre de votre dernier roman, qui effectivement fait écho oui. à la situation internationale actuelle.
C'est l'après-guerre. Alors, il y en aura un second qui partira de 1940 à 43-44.
Toujours donc notre avec petite Judith et les mêmes personnages.
Les mêmes personnages, mais dans la guerre. Là, c'est l'après-guerre.
Formidable.
Vous voyez, c'est l'après-guerre, l'atmosphère qui précède la tempête.
Et là, tout est possible.
Oui. Là, c'est plus grave.
Peut-être des situations heureuses. Oui. En tout cas, dans un premier temps, merci Maud de votre enthousiasme pour Les faisceaux de la peur, votre dernier roman chez City Édition. C'était donc Maud Tabachnik, notre invitée. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur.
Moi, je l'écouterai quand vous me passerez le. Alors, bien sûr, le lien.
On retrouve l'émission en podcast sur le www.yannickpetit.fr. Merci à toutes et à tous. Merci Maud Tabachnik. Merci. Au revoir. Et à samedi prochain.